Nous fêtons la croix glorieuse. Il y a un enracinement dans l'histoire de la liturgie, parce que c'est en même temps la fête de la dédicace de la basilique de la résurrection, ou la basilique du Saint-Sépulcre, qui est à Jérusalem, par la mère de Constantin en 320 et quelque chose, 23. Et en même temps, cela nous amène à voir ce paradoxe évangélique. Vous savez, croix et glorieuse. Comment est-il possible que ce qui était le supplice humiliant par excellence, ou le condamné exposé nu, agonisant de longues heures, châtiment réservé pour les esclaves ou les révoltés, et associé à la gloire. Dans l'Évangile, nous sommes déjà habitués à un certain nombre de paradoxes que Jésus nous donne en annonçant le royaume. Bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui pleurent, etc. Ou alors encore, si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Et Jésus parle justement de, si c'est vrai dans la nature, eh bien il en parle aussi pour parler de sa vie, pour parler de son chemin, pour parler de sa mission. Il nous est difficile aujourd'hui de comprendre ce que veut dire fêter la croix glorieuse. Père Éric nous a dit déjà la clé tout à l'heure. On regarde la croix non pas dans le fait, mais dans les fruits qu'elle nous donne. Ce fruit de vie, ce fruit annoncé dans l'Évangile, fruit de vie éternelle. Mais en même temps, ce n'est pas un mystère si facile qu'il nous est donné de voir. Et saint Paul, même s'il est rempli par cette puissance de la résurrection de Jésus, dit « Nous proclamons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs, pour les païens ». Et cela reste bien souvent dans notre quotidien, cela reste ce scandale. Et ce scandale, il est pour les Juifs au départ, mais il a été aussi pour un certain nombre de chrétiens qui, au début du christianisme, ne pouvaient pas penser que si Jésus est vraiment le Messie, s'il est vraiment le Fils de Dieu, comment peut-il souffrir? Comment peut-il vivre cet échec? Comment est-ce possible? Alors il y a eu substitution, il y a quelqu'un qui a pris sa place, mais c'est pas possible que lui ait vécu ça. Et c'est encore une doctrine qui reste aujourd'hui pour les musulmans dans le Coran, puisqu'ils dépendent de ces premiers chrétiens. Parce que c'est un scandale. Et ça nous révolte. Ou alors, avec les Grecs, avec les gens, j'allais dire, sans culture biblique, sans une culture de cette présence de Dieu qui nous accompagne, eh bien, on refuse d'écouter comme les philosophes à Athènes. C'est pas possible, c'est complètement, complètement fou, c'est une histoire qui ne va pas. Et on s'en détourne et on ne prend pas le temps de l'écouter. Chose qui, pour beaucoup aussi de nos contemporains aujourd'hui, eh bien, est encore, parce qu'avec tous ces siècles où on a essayé de déconstruire, eh bien, ce message, parce qu'on avait pris très souvent aussi le message du Christ, non pas dans son mystère, mais sous un aspect moralisant, eh bien, c'est devenu complètement illisible. Et pourtant, vous savez bien que Jésus a insisté auprès de ses apôtres qui ne comprenaient pas, et avec Pierre qui était révolté, il faut que le Fils de l'homme soit rejeté, qu'il souffre, qu'il meure, et le troisième jour, qu'il ressuscite. Et Jésus a insisté. Et cela a été difficile jusqu'au pied de la croix où tous les apôtres avaient fui. Et c'était impossible à rentrer. Et pourtant, dans la pédagogie de Jésus qui est reprise dans la liturgie, vous savez, nous sommes aujourd'hui 40 jours après une autre fête, la fête de la Transfiguration. Jésus, pour présenter, pour aider ses disciples à passer ces moments difficiles, et bien pour rentrer dans cette mission, parce que c'est sa mission aussi, et bien il a vécu la transfiguration, où il a laissé apparaître la gloire, le rayonnement, l'être de Dieu qu'il est. Il l'a laissé apparaître pour les conforter, tout en parlant de sa montée à Jérusalem, justement, parce qu'il y a un lien. Ici, on a un cycle dans la liturgie de cette gloire de la transfiguration à cette gloire de la croix. Gloire de la croix, comment faut-il l'entendre ? Car la croix dans les évangiles nous est présentée de manière différente. Un saint Jean, que nous voulons lire là, mais au chapitre 3, il présente Jésus avec une autorité paisible, souveraine, qui pardonne, qui est attentif à Marie, à Jean, qui sont là au pied de la croix. Ou alors un saint Marc, qui d'un autre côté présente Jésus dans la souffrance, dans l'incompréhension, avec ce cri à la croix, qui est en même temps la vigueur de Jésus, mais en fait en même temps toute la détresse. Il ne nous faut pas choisir, car il y a les deux aspects, et c'est dans les deux aspects que se développe ce mystère de la croix, cette croix qui nous est donnée. Vous avez entendu dans les lectures, pour nous préparer, il y a effectivement il faut que le Fils de l'homme va être élevé, et c'est en grec et en hébreu ici, derrière cette élévation, il s'agit effectivement de la gloire, et Jésus montre ce qu'il était repris par le prophète Zacharie. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Et quand on va lire l'hébreu, c'est même encore plus fort, vers celui qui l'a transpercé, entre parenthèses, Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui échappe au Seigneur, mais qui est dans son dessein divin. Jésus le voulait pour nous parler, pour nous dire quelque chose qu'il nous faut apprendre à écouter. Et donc dans la première lecture, vous entendez bien, il y a de la part des Hébreux dans le désert ce refus de la réalité. Ils sont dans le désert, le Seigneur a déjà agi pour eux, et puis ils en ont marre de la manne, qui est un don de Dieu, mais ils en ont marre de cette nourriture du désert, alors ils se mettent à récriminer. Ils veulent autre chose. Et donc il y a des serpents, et puis comme ils ont un peu mauvaise conscience d'avoir récriminé contre le Seigneur, eh bien les serpents qui arrivent, ils pensent que c'est un châtiment de Dieu, etc. Et Moïse reprend une pratique qui, un peu, d'ailleurs même le roi Ézéchias, quelques siècles plus tard, la considérera un peu comme magique et supprimera ce serpent d'airain, mais Dieu les prend là où ils sont, et il les aide, ils regarderont. Et après la croix de Jésus, après la résurrection, dans la prédication des apôtres, c'est cette invitation à regarder Jésus. Pourquoi ? Regardez Jésus sur la croix. C'est le pape Jean-Paul II qui donne une très belle expression dans son encyclique sur la miséricorde. Il dit « La croix est le moyen le plus profond pour la divinité de se pencher sur l'homme et sur tout l'homme. » Dieu ne nous invite pas à un autre monde. Dieu n'est pas une illusion d'un autre monde, mais il vient parmi nous, et dans ce monde qui est le nôtre, il vient nous sauver. Bien sûr, le rêve de l'homme, c'est comme Adam et Ève, comme dit le texte grec, de revendiquer de revendiquer d'être égal à Dieu, de décider de tout, du bien et du mal, de se faire Dieu. Et en réponse, Jésus, le Verbe incarné, eh bien, il n'a pas, nous dit l'épître aux Hébreux, l'épître aux Philippiens qu'on vient de lire, il n'a pas revendiqué le rang qu'il légalait à Dieu. Parce que notre existence, nous la recevons. Nous la recevons. Et le Seigneur, eh bien, marche avec nous. Il va nous donner la force. Il va nous donner sa présence. Il va nous donner la guérison pour avancer, pour passer à travers les épreuves. Mais non pas, j'allais dire, d'une manière illusoire, d'une autre manière. Il est là et il vient nous donner le désir de vie, il vient nous inviter à la vie éternelle, il vient nous inviter à dépasser la mort, tout ce qui est violence, domination, désir d'attirer pour soi, par soi-même, mais il va nous apprendre dans ce monde eh bien, à avancer, et il nous propose eh bien, la vie éternelle, de partager sa vie, mais qui n'est pas, comme nous le pensons, une vie toute puissante au sens des hommes, mais qui est de cette toute puissance de l'amour, de cette toute puissance de la guérison pour le cœur de l'homme. Et il nous est bon de regarder nous-mêmes comment nous vivons les croix. Comment nous vivons les frustrations? Est-ce que c'est simplement des pièges, des choses qui nous embêtent? Est-ce que nous sommes contre les autres parce qu'ils sont, ou contre les événements parce qu'ils ne sont pas comme nous avions imaginé? Ou est-ce que nous pouvons les accueillir et avec la force du Seigneur, eh bien, agrandir notre cœur, agrandir notre intelligence et avancer dans ce monde, eh bien, en répondant à la vocation qui est la nôtre, qui est d'aimer, qui est d'accueillir les uns et les autres dans ce monde et de leur donner la paix et la joie. Dans toutes les maisons, autrefois, il y avait, dans toutes les pièces, même souvent, il y avait une croix. Et c'est pour nous bon de regarder qu'est-ce qu'on a fait des croix qui sont dans nos maisons. Est-ce que nous savons regarder vers Jésus? Est-ce que nous savons nous laisser dans les difficultés, dans les choses difficiles de notre vie, petites ou grandes, regarder vers Jésus? Non pas pour trouver une explication, mais comme dit le pape Jean-Paul II ici, eh bien pour nous laisser toucher par cet amour de Dieu qui vient nous rejoindre jusque dans les moments difficiles, mais qu'il ne nous enlèvera pas ce qui est précieux dans notre vie, qui est cette présence du Seigneur, cette vocation à laquelle il nous appelle.